BW. Magazine Santé.
Une personne dans le monde développe une démence toutes les 3 secondes. 50 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde en 2017, un nombre qui doublera presque tous les 20 ans pour atteindre 131,5 millions de personnes en 2050. Ces chiffres sont tirés du dernier rapport de l'organisation World Alzheimer. Ceux publiés par l'Organisation mondiale de la santé sont encore plus élevés. L'Afrique subsaharienne n'est pas épargnée, loin de là. La journée mondiale de l'Alzheimer, célébrée tous les 21 septembre, nous donne l'occasion d'en parler. Et puis cette semaine, nous vous proposons aussi un reportage en Côte d'Ivoire sur la difficile prévention du VIH-Sida dans le milieu de la prostitution. C'est Constance Fischer au micro, soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine Santé. La démence, voilà un mot qui fait peur et pourtant il faut en parler car cette maladie va toucher de plus en plus de personnes ces prochaines années. Des personnes âgées en premier lieu, mais aussi parfois des personnes plus jeunes. Notre invitée cette semaine est Maëlène Guerchet. Elle est épidémiologiste et spécialiste des démences et du vieillissement dans les pays à faible ou moyen revenu. Et elle a participé à la rédaction d'un rapport intitulé « Démence en Afrique subsaharienne, défis et opportunités ». Il est sorti en 2017.
La démence, d'un point de vue médical, est un syndrome dans lequel on observe une dégradation de la mémoire, des facultés de raisonnement, du comportement, et ça va progressivement impacter l'aptitude des personnes à réaliser les activités de la vie quotidienne, et ça peut aussi compromettre les activités professionnelles ou sociales des personnes qui ont atteint de démence. Qu'est-ce que ce n'est pas ? C'est vrai que la démence, on pense souvent à la folie de manière très directe, mais c'est bien un symptôme et un syndrome neuropsychiatrique. Et puis, bien que la démence touche principalement les personnes âgées, ce n'est pas une composante normale du vieillissement.
En réalisant ce rapport sur l'Afrique subsaharienne, qu'est-ce que vous avez pu constater concernant la situation de la démence dans les pays concernés par cette étude ?
D'une manière générale, les pays d'Afrique subsaharienne vont être de plus en plus touchés par les démences. Ça tient à plusieurs éléments, le fait que la population d'Afrique subsaharienne vieillit, que les modes de vie changent, que les maladies chroniques et cardiovasculaires notamment prennent un peu plus d'importance par rapport aux maladies infectieuses qui sont toujours présentes évidemment. En se basant sur les études disponibles dans différents pays d'Afrique subsaharienne, on a estimé qu'environ 2,1 millions de personnes âgées étaient atteintes de démence en 2015. Et ce nombre pourra atteindre 7,6 millions de personnes d'ici 2050. Plus on devient vieux et plus on a de probabilités de développer une démence. Et les femmes sont plus souvent atteintes que les hommes.
Et est-ce qu'il y a des comportements qui favorisent particulièrement la démence ?
C'est très compliqué parce qu'il y a des facteurs génétiques et ça, évidemment, on ne peut pas le changer. Par contre, en général, on considère que tout ce qui peut être fait pour prévenir un mode de vie plus sain et sa santé, notamment cardiovasculaire, sera aussi bon que la prévention des démences. Manger sainement, faire de l'activité physique, avoir un réseau social et stimuler cognitivement ses capacités et ne pas fumer, ne pas boire trop, ce genre de choses.
Est-ce que c'est un problème dont les autorités publiques notamment ont conscience et est-ce qu'elles font quelque chose pour les personnes atteintes de démence ?
Alors la prise en charge en elle-même des démences est souvent un parcours assez difficile, notamment parce que il y a une méconnaissance de cette maladie dans la population. Puisque les personnes âgées ne sont généralement pas les cibles de mesures de protection sociale de l'assurance maladie, la prise en charge et le soin des personnes qui sont atteintes de démence repose quasi exclusivement sur les proches, sur la famille, ce qui représente un fardeau très, très important. Alors après, il y a des associations nationales Alzheimer et là, il y en a beaucoup plus dans le sud de l'Afrique subsaharienne. Et puis je pense qu'avec avec justement cette prise de conscience et de la population, et je l'espère aussi gouvernementale, il y en aura de plus en plus.
Est-ce qu'une fois que la maladie a été diagnostiquée, est-ce qu'il y a des moyens pour ralentir la maladie ?
Alors, il existe des traitements, en effet, qui visent à freiner l'évolution de la maladie et à réduire surtout aussi les troubles du comportement. Cependant, l'accessibilité de ces traitements en Afrique subsaharienne, à mon avis, est encore dépendante de beaucoup de facteurs. Il y a aussi d'autres interventions qui peuvent être bénéfiques. Donc, ça peut être des ateliers mémoire ou des ateliers un peu plus créatifs, comme la peinture, le théâtre, la musique. Et puis, évidemment, aussi des groupes de soutien psychologique pour partager un peu plus leurs expériences.
Quels sont les conseils pratiques que vous pourriez donner à des personnes qui aident les patients atteints de démence ?
Ça dépend certainement beaucoup du contexte de chaque pays, mais de manière générale, je pense qu'il faut surtout pas hésiter à rechercher de l'aide, que ce soit auprès des services de santé, des associations, même si l'offre est encore faible, ou même d'autres proches, d'autres familles et de la communauté un peu plus large. Et puis aussi, évidemment, une des premières choses qui est très importante, je pense, pour pouvoir mieux vivre cette expérience, c'est de bien comprendre ce que sont les démences, leur origine, mais aussi surtout qu'est-ce qu'elle provoque et qu'est-ce qui va arriver au fur et à mesure que le temps passe pour être mieux à même de faire face à ce défi et à ce fardeau.
Maëlène Guerchet, spécialiste des démences et du vieillissement en Afrique subsaharienne. Vous l'avez entendu, il est plus approprié d'employer le mot « démence » au pluriel, car si la maladie d'Alzheimer est la forme de démence la plus fréquente et donc la plus connue, il en existe bien d'autres. Si vous aidez une personne atteinte de démence, rendez-vous sur la page de ce magazine sur le dw.com/français. Vous y trouverez quelques liens vers des sites qui vous permettront de mieux appréhender la maladie et ses conséquences au quotidien. Vous écoutez la Deutsche Welle, vous écoutez le magazine Santé, direction Abidjan à présent en Côte d'Ivoire, où elles sont de plus en plus jeunes à pratiquer ce que l'on dit être le plus vieux métier du monde. Dans les coins chauds de la ville et sur la toile, les prostituées mineures ne se cachent pas. Notre correspondant sur place a pu leur parler sans grande difficulté. Comme leurs aînés, ces jeunes filles sont exposées au VIH-Sida et bien que les autorités ivoiriennes aient conscience du problème, les ONG se retrouvent souvent seul sur le terrain. Avec peu de moyens, mais la volonté de sortir les filles du pétrin. Un reportage donc de Julien Adéry.
Il est à peine 19h ce soir-là, quelque part à Ayoupougon dans le nord d'Abidjan. C'est ici que Richies, une adolescente nigériane de 15 ans, pratique depuis 6 mois maintenant la prostitution.
C'est à cause de l'argent, moi, arrêter la route. Ma baisse pas sans capote.
Jamais.
Non. Peut-être que le client est pour moi, lui fait forcer. Lui dit, toi fais ça, toi n'a pas fait ça, ça c'est pas là. Lui frapper, toi.
Juste à côté, dans le même périmètre, Grâce, une jeune Ivoirienne de 16 ans, pratique aussi le même métier. Comme Rikis, Grâce est arrivée à la prostitution par nécessité. Elle a conscience que c'est un métier risqué, mais elle nous explique qu'elle n'a pas le choix.
Il y a sida, il y a soupice, ça me fait peur. Mais je sais qu'il y a maladie, mais quand mon travail, si j'ai trop maladie, je me mets à l'hôpital. Moi, c'est 3 fois j'ai fait test de sida. Depuis ce jour, je n'ai pas encore fait test.
Nombreuses sont les filles qui se prostituent en Côte d'Ivoire pour pouvoir être autonomes ou venir en aide à leur famille. Difficile cependant de trouver des chiffres officiels sur le nombre de personnes qui se prostituent. Officiellement, la pratique est interdite par la loi. Dans les faits, difficile de contrôler le milieu. Pourtant, ces jeunes filles s'exposent à de nombreux risques en se prostituant, comme nous l'explique le docteur gynécologue à la retraite Mileg Angouran.
Les risques pour ces jeunes filles sont encore plus grands parce qu'elles n'ont pas fini leur développement de parties génitales et tout. Et elles vont avec des personnes adultes qui vont causer des dégâts. Donc elles vont avoir autres dégâts que les dégâts des infections sexuellement transmissibles. Elles vont avoir des dégâts physiques. Elles vont avoir des dégâts aussi psychologiques. Parce que ce sont des filles souvent qui sont obligées à ce métier-là. Donc elles courent beaucoup plus de risques que les grandes personnes qui consciemment se donnent à ce métier.
Le docteur Mileg Angouran soutient qu'au-delà des maladies sexuellement transmissibles, les prostituées s'exposent à d'autres pathologies.
La plupart du temps, on voit seulement les maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire le sida, la gonococcie, l'hépatite. Mais en dehors de ça, ces personnes qui pratique ce métier dans un environnement vraiment pas du tout sain, s'expose à d'autres pathologies telles que les pathologies bronchopulmonaires, la toux, les infections pulmonaires, la tuberculose. À cause du métier qu'elles font, elles n'ont pas le temps d'avoir une alimentation équilibrée. Elles font des pathologies métaboliques telles que le diabète et l'hypertension. Elles peuvent faire une insuffisance rénale. Elles peuvent avoir des insuffisances veineuses parce qu'elles restent tout le temps debout. Elles vont avoir des lésions vaginales. Elles vont faire le cancer du col. puisque exposée à plusieurs hommes, et il y a des hommes qui refusent les préservatifs. Il y a aussi des filles qui refusent les préservatifs parce qu'elles trouvent que les préservatifs leur donnent des démangeaisons.
D'ailleurs, dans la commune de Cocody, c'est sous une pluie battante que nous sommes arrivés au siège de l'ONG Femmes de Salem, une organisation qui fait de la sensibilisation. Ici, nous rencontrons Christelle, la trentaine révolue. Après s'être prostituée pendant plus de 5 ans, elle a décidé avec l'aide de l'ONG de tourner le dos au métier, notamment pour protéger sa santé. Une décision difficile.
Depuis un moment, j'ai pris la décision d'arrêter. Quand bien même que ce n'est pas facile, même si c'est difficile, ce n'est pas la solution.
Sensibiliser, accompagner, soutenir, l'ONG Femmes de Salem a fort à faire, comme l'explique Boussou Bintou Koulibaly, présidente fondatrice.
Il y en a qu'on a pu scolariser, il y en a qu'on accompagne au plan psychologique. Et les personnes comme Christelle qui ont décidé d'arrêter, nous, on vise une autonomisation à long terme. Mais vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Et ce qui est dramatique, c'est que Christelle et sa sœur font la même chose.
En Côte d'Ivoire, la prostitution se pratique aujourd'hui sur le trottoir, dans les cités universitaires, dans les collèges et lycées, mais aussi sur la toile. Les principales motivations sont la pauvreté, la démission des parents et surtout la volonté de survivre. Si cette communauté n'est pas prise en charge dans les actions gouvernementales, toutes les stratégies pour éradiquer le VIH-SIDA dans le pays seront vaines. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
C'est déjà la fin de cette édition. Si vous avez des questions ou des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous en parler en nous écrivant un mail à français@dw.com. Bonne semaine à toutes et à tous. Restez en bonne santé et à l'écoute de la DW. Kimmy, yes, sir, that could be.